Nous sommes mercredi 4 mars 2020 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Necton.
Salut, salut.
Et bonsoir Zargi qui est en grande forme ce soir.
Salut.
En très très grande forme ce soir. Alors, au programme de cette émission, nous allons faire une spéciale Q, oui effectivement, merci Tardy. Une spéciale Q, hein, c'est donc...
C'est une spéciale THQ.
Oui, effectivement, c'est une spéciale
joli.
THQ. Pas mal. Très joli rattrapage.
Alors, THQ ou THQ nordique?
Alors, on en discutera un peu après si ça vous dérange pas, c'est un petit peu compliqué. Donc on va faire une spéciale Darksiders, on va faire une petite rétrospective sur Darksiders 1, 2, et on a dit 3 pour le LOLs éventuellement si quelqu'un y avait joué, mais a priori non.
Ah non.
Et voilà. Ben non.
Parce que c'est la sortie du seul jeu intéressant du mois de février, Darksiders Genesis. Et je vous annonce tout de suite que le seul jeu intéressant du mois de mars, c'est rien.
Mais donc, oh
y a
j'en
pas,
parlerai. Pas chier, j'en parlerai. Y a pas un truc avec genre un gars avec un casque qui tue les aliens sur une île paradisiaque avec un tanuki et une chienne?
Non, je vois pas de quoi tu parles.
Attends, je reviens en arrière, il y a Two Point Hospital qui est sorti ce mois-ci.
Oui, non, mais stop.
Ah, non, mais vu l'actualité, c'est génial.
Non, mais moi, ça m'étonne qu'il ait pas dit qu'il y avait Doom qui sortait ce mois-ci, mais...
Doom ! Oui, mais j'attends la version Switch, moi, je suis un vrai. J'y joue en 480p maximum sur ma télé.
Et il doit pas sortir en même temps
comme le
non,
premier
non, il sort un peu après.
Ah.
Visiblement, alors de ce que j'ai compris, ils ont pris la version Switch en compte dès le départ, contrairement à Doom 2016 qui était un portage qui était réalisé par
Panic Button,
excusez-moi, bon, ça
m'a senti.
Voilà, merci beaucoup. Et mais donc apparemment ça a été prévu en même temps, donc c'est quand même Panic Button qui s'occupe du truc, mais qui s'en est occupé en même temps que le développement principal. Donc, ça va sortir un petit peu après, parce que je pense qu'ils ont quand même un peu besoin d'optimisation. Mais pas très longtemps après, visiblement, ils n'ont pas encore annoncé de date, mais ça m'étonnerait que ce soit plus de 2 ou 3 mois plus tard.
C'est juste qu'ils ont lancé le zip et ça va prendre 3 semaines.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais on va commencer tout de suite avec les restes du monde. Et bien, tiens, puisque tu fais le malin, mecton, voilà, ça va être pour ta pomme, Doobie Bran. Tu vas parler de To The Moon, parce que tu m'as dit, j'aimerais que je parle de To The Moon un petit peu.
Oui. Alors, on a fait un petit article sur l'initiative de Tardy, qui tenait à en parler. Donc, il y a KP et moi-même qui avons réagi par-dessus. C'est un petit jeu, tout petit, mais qui l'est vachement bien. Alors, jeu avec des guillemets, parce qu'en fait, c'est plus une histoire interactive. Au sens où, à la base, c'était fait sous RPG Maker. Et là, la version Switch est une version qui tourne sous Unity. Alors, j'en parle d'entrée, ça se
mal,
sent à chaque changement d'écran. Tu as un petit chargement qui a été patché depuis, il est un peu plus court, mais ayant connu la version PC, ça m'a gratté un peu, quoi. Et il tourne mal, oui, au sens où les contrôles sont finis avec le cul, quoi. Pareil que ça marche mieux au tactile. Mais...
C'est quand même très difficile de contrôler avec son cul.
Oui.
Ça reste quand même des... On est toujours dans la thématique. Hein,
c'est ça. Voilà. Alors après, voilà, niveau gameplay, c'est juste déplacer un personnage et puis cliquer sur des objets, des centres d'intérêt dans l'écran.
Ça ressemble à un point and click. Enfin, c'est entre le point and click et le livre dont vous êtes le héros, quoi, en gros.
C'est ça. Oui, alors non, parce que tu n'as pas de choix multiples.
D'accord.
C'est vraiment un truc linéaire. Alors comment en parler? Il faut que je parle de l'histoire du coup. C'est donc ça se passe dans un monde légèrement futuriste. Si vous avez vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, putain je l'ai fait du premier coup.
Bien joué.
Si vous avez vu ce film, l'histoire vous parlera d'entrée. Donc on suit un couple de médecins qui bossent pour une agence dont le rôle est de, en gros, réaliser le dernier rêve de quelqu'un. Donc l'histoire commence, il y a un papy qui est sur le point de mourir, machin, et il a le souhait d'aller sur la Lune. Et il ne se rappelle pas pourquoi. Donc il faudra lui implanter ce souvenir. L'histoire va faire que, un peu à une construction à la Memento, comme mon discours, hein, complètement décousu. On commence par la fin, on remonte dans ses souvenirs jusqu'à découvrir pourquoi il voulait avoir ce souvenir. Et ça va être difficile d'en parler sans spoiler, mais la révélation...
Alors, on spoile pas.
Voilà, ça va être difficile, voilà. Mais la révélation et ce qui l'amène à avoir cette volonté, c'est très touchant. C'est très touchant, et pour le coup, c'est une histoire qui brasse des thèmes qu'on voit assez rarement dans le jeu vidéo. Tiens, faudrait qu'un jour on fasse une émission sur le handicap.
D'accord, oui, ce serait bien par contre si on fait ça, d'arriver à inviter quelqu'un qui puisse en parler réellement, notamment de jouer quand on est handicapé, parce que c'est un vrai truc. Il y a eu plein de choses qui ont été faites par Microsoft sur le sujet. Je me demande si on pourrait pas inviter JCC d'Xboxygen qui était déjà venu dans un des premiers Dojo Bar il y a quelques années maintenant.
Il est handicapé ?
Non, il est pas handicapé, mais il travaille, il fait de la Xbox, donc voilà. Parce que c'est surtout Microsoft qui a eu des initiatives intéressantes sur le sujet. Oui. Ce serait vraiment intéressant qu'on arrive à récupérer quelqu'un qui est intéressé
par
ce sujet-là.
Typiquement, ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est que dès qu'on évoque le mot handicap, on pense à particularité physique. Toute petite révélation qui pourrait peut-être vous donner envie de découvrir l'histoire, le handicap n'est pas physique dans le jeu.
Oh, ça c'est intéressant.
Voilà.
Ça, c'est très intéressant. Ça, effectivement, ça excite ma curiosité. Je vais enchaîner avec Monsieur Antix, qui est monomaniaque en ce moment.
comme à chaque sortie d'un nouveau Fire Emblem, en fait.
C'est un peu ça. Sauf que là, c'est un DLC d'un Fire Emblem, donc t'aurais pu faire une petite exception. Oui, alors, voilà, je précise, donc, Cannelle est perdue. Cannelle, c'est le chat, et elle est perdue. Voilà, donc. Elle est sénile, donc elle est perdue. Voilà,
donc,
Monsieur
sur les
Antix, je vous laisse la main.
Sur les musiques de Donkey Kong Country, vous pourrez avoir des miaulements. Ce n'est pas un remix. C'est du live.
Exactement. C'est les aléas du direct. Vous connaissez que j'ai. Bon, Antix.
Du coup, le 13 février, donc, est sorti la dernière partie du pass de contenu de Fire Emblem, qui est l'histoire. Alors, c'est quoi en français déjà? C'est les. Je crois
Ombre
que c'est.
Ombre ardente, un truc comme ça.
Cinderella Chateau in English, you know. Qui est en fait le plus gros, on va dire, contenu de DLC sorti pour le jeu jusqu'à présent, puisque pour le moment on avait surtout eu des personnages en supplémentaire, que ce soit gratuitement ou payant, et quelques petits trucs cosmétiques. Là on parle d'un vrai standalone, enfin en tout cas d'une série de missions standalone qui permettent de rencontrer de nouveaux personnages et d'explorer certains aspects de l'univers de ce Fire Emblem un peu plus en profondeur. Notamment la mère de Bilef, qu'on ne voit jamais dans le jeu et qui est au centre un petit peu de l'histoire de ce nouveau DLC.
Nice.
Alors j'ai vu que dans le petit topic de préparation, Mecton m'avait demandé, mais à quel moment enfin il faudrait commencer ce DLC?
Oui, s'il te plaît.
Et bien la chose qui est sympa le concernant, c'est qu'en fait il est totalement indépendant en fait du jeu principal.
Donc tu peux le faire sans t'être tapé les 3 routes.
Tu peux le commencer. 3,5. Tu peux le commencer quand tu veux, en fait, parce que c'est des slots de sauvegarde indépendants. L'histoire est totalement indépendante, puisque les. Ça doit se passer dans la première partie, hein, globalement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on va pouvoir jouer avec des personnages des 3 maisons en même temps, et notamment avoir en même temps Dimitri, Edelgard et Claude sur le terrain, ce qui n'est pas possible dans le jeu principal. La petite compensation, c'est que ça va être pour une petite série de missions, parce que je crois qu'il y a 7 cartes au total.
Ça fait pas énorme du coup, enfin, 7 chapitres au total, c'est ça?
Et ouais, 7 chapitres au total, et en plus sur un DLC qui va droit au but, c'est-à-dire qu'en fait même si on visite un petit peu l'abysse qui est le petit hub central, on est très très limité dans ce qu'on peut faire là-dedans, parce que ça va surtout être faire du ravitaillement. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de déjeuner à la cantine, ça va vraiment droit au but. Et en fait, tous les personnages sont dans des classes, ont un set de classes et de techniques qui leur est vraiment spécifique. Il faut faire un petit peu du coup de management au niveau de ce que tu veux utiliser, sachant que tu te retrouves avec un seul vrai soigneur qui est Lineheart. Enfin, de mémoire, c'est ça. Le prêtre un peu flemmard des aigles de jet. Bon, c'est quand même relativement équilibré, mais faut quand même faire attention à pas trop en prendre plein la gueule, et surtout à pas laisser Lineheart mourir au début du jeu, parce que sinon ça veut dire se retrouver avec des soigneurs beaucoup moins compétents, on va dire. dans le jeu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de la petite troupe de 7 personnages issus du jeu principal, on va avoir les 4 nouveaux personnages qui sont issus de la classe cachée des loups de cendre, et qui vont surtout apporter de nouvelles mécaniques dans le jeu avec des nouvelles classes qui sont toutes issues d'Awakening. On trouve notamment le Pégase Noir, qui était un Pégase Magicien, qui est une classe plutôt forte de mémoire. On a aussi un combattant au corps à corps qui peut aussi soigner, et surtout ce qui va être intéressant, c'est que les femmes vont enfin pouvoir utiliser les gantelets dans le jeu principal, grâce à cette classe. Et voilà, c'est vraiment des cartes qui sont assez courtes, qui sont bien designées, et moi je vous conseille de le faire si vous avez vraiment aimé le jeu, et surtout si vous le faites, et que vous avez pas encore eu l'occasion de faire une route que vous voulez faire, bah, je vous conseille de faire le DLC avant, parce que le finir va vous permettre de débloquer tout le contenu du DLC dans le jeu principal, donc ça veut dire les classes et les 4 nouveaux personnages qui ont leur propre set de dialogue de soutien, leur propre spécificité, et ils ont même fait l'effort de se faire redesigner pour quand il y a le time skip de 5 ans, donc
excellent.
Il y a du taf, et moi je suis en train du coup de refaire une partie sur la seule route que je n'avais pas faite. Je m'amuse un petit peu parce que je fais une partie où je ne prends que des gars qui sont routuriers. J'ai laissé tous les nobles crever dès le début du jeu. Le héros s'appelle Karl Marx et se bat avec ses poings.
C'est parfait.
Alors en plus je m'étais pas rendu compte à quel point les gantelets étaient pétés sur Bilef, mais globalement ils rentrent comme dans du beurre dans absolument tout ce qui lui passe sur la main, y a rien qui survit.
On avait dit Bilout.
Bilout, c'est vrai.
En plus c'est Fire Emblem Prolo que t'es en train de faire, donc.
Exactement. Et je suis sur la route où je vais pas avoir de nob dans mon équipe du tout à un moment, donc
c'est pareil, c'est parfait. Ça coûte combien cette petite blague du coup?
Alors du coup c'est 25€, sachant que bon, en plus de ce que je viens de vous décrire, vous avez aussi le contenu qui a été ajouté avant, donc une tétrachée de costumes, quelques quêtes annexes supplémentaires. D'ailleurs les nouveaux personnages ont aussi leurs propres quêtes annexes pour obtenir leurs propres reliques légendaires, parce qu'il y en a que certains qui en ont. Donc il y a du contenu en plus.
Il y a le sauna, non?
Il y a le sauna qui est un très bon moyen de faire grimper ses jauges d'armes.
Ah, c'est un bon moyen de faire grimper plein de trucs. Hein.
Exactement. En plus, c'est un sauna mixte. N'espérez pas trop en voir, par contre. Hein.
News Nippon, News Freepon, donc.
Exactement. Bah, pas spécialement, ils sont une espèce de maillot de bain, mais c'est mixte.
Non, mais c'est pareil, c'est un maillot de bain. Mais voilà, c'est très très chaud. Attends, est-ce que dans la version japonaise, on peut enlever le maillot de bain?
Non.
Merde. Remboursé.
Non, mais par contre, pour les fans, il y a des tenues de maid.
Putain.
Ça c'est pas une blague, par contre, hein. Tout le monde y a accès.
Le maillot de bain de maid, je trouve qu'il y a quand même un truc très très troisième degré, hein.
Mais ils peuvent pas s'empêcher, quoi, c'est dingue.
Ouais, non, mais c'est vraiment le jeu était relativement sérieux, et puis là t'as eu ce moment où tu pouvais accéder au sauna, mettre des costumes de maid, et là t'étais un peu genre, donc un jeu sur la guerre, oui.
Serious business, tu vois,
un ton très adulte. Bref. Et des maids.
Si vous voulez revenir sur Fire Emblem, prenez le DLC, c'est une bonne occasion de faire voilà les cartes qui sont vraiment très très bien, enfin les nouvelles missions, et après de refaire une partie dans le jeu principal avec le nouveau contenu, qui du coup change aussi pas mal la donne, parce que tu peux avoir des chapitres de 4 personnages supplémentaires dans ton équipe, ce qui est pas mal.
C'est donc l'heure de la news troll de la semaine. GeForce Now, qui est donc le concurrent de, on va dire, Shadow, parce que pas vraiment Stadia.
PlayStation Now aussi.
C'est quoi Stadia?
Oui, je suis d'accord.
Google se pose la question aussi.
Alors, on reparlera de Stadia, parce qu'il y a eu des choses très intéressantes qui se sont passées autour de Stadia, notamment absolument rien pendant 3 mois.
Petit ange parti trop tôt.
C'est un peu ça.
On dirait là, oui.
Ils n'ont absolument rien annoncé depuis 3 mois. Zéro communication, rien du tout. Je trouve ça très inquiétant pour eux.
D'ailleurs,
c'est très marrant. Si,
ils ont fait un tweet genre 3 nouveaux jeux exclusifs, et t'as genre un match 3, un Bubble Bobble, enfin...
Oui, tout le monde s'en bat les couilles.
Voilà.
Et il y a aussi eu des. Y a, en plus, je crois que cette semaine, il y a eu des articles comme, qui parlaient justement de en quoi Stadia n'était pas apprécié des développeurs et des éditeurs.
Ah, mais ça, après, je pense que Google. Bon, bref. Donc, GeForce Now, c'est le grand troll du jour. C'est que les jeux Blizzard ne seront pas disponibles. Les jeux Activision Blizzard ne seront pas disponibles pour GeForce Now.
Ils ont été retirés après la démo.
Alors, moi, ce que j'ai du mal.
Now, et c'est pas les seuls.
Voilà, mais moi ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre avec GeForce Now, c'est que je pensais que c'était pas une plateforme type Stadia, c'est-à-dire du jeu en streaming, mais où finalement t'as pas la main sur le PC, t'es obligé d'acheter les jeux. Je pensais que c'était vraiment comme Shadow, c'est-à-dire un PC en ligne, en gros. Et j'ai l'impression que c'est pas ça. Du coup, c'est pareil, je pense que ce modèle économique-là, les gars, Stadia, GeForce Now, ça ne marche pas. Donc arrêtez de faire ça, essayez de faire du Shadow, il y a peut-être moyen que ça fonctionne. Voilà, c'est mon avis personnel. Mais c'était le... Voilà, donc Blizzard l'a retiré, et je crois que c'est effectivement, comme disait Zergy, c'est pas les seuls.
Non, t'as Bethesda aussi.
T'as Bethesda qui a retiré tous ses jeux de GeForce Now, ce qui est quand même...
Bah voilà, il y a plus de jeux buggés, en fait.
Oh putain, oh là là,
oh, c'est moche.
Il est dur, il est dur, il est très très dur ce soir. Autrement dit, c'est les 3 ans de la Switch. Joyeux anniversaire. Stop, stop, vous chantez mal.
Est-ce que tous les voyants sont au rouge ou orange ou au vert?
Alors, je vous rappelle que pour seulement 999,99€, on vous fait un t-shirt unique au monde avec tous les voyants sont au rouge, et on le fait vraiment si vous payez.
Faut utiliser la police du site Gamekult ou je sais pas quoi là qui l'avait fait.
T'inquiète, on va récupérer celle de Gameblog, on a tout prévu. Et c'est très sérieux, hein. Le mec qui dépense 1000 balles, je lui fais le t-shirt, pour de vrai, et je lui livre à domicile. Et donc je voulais juste rajouter un tout petit mot sur pendant ce temps sur le dojo. C'est parti des petits trucs. Donc on a To The Moon qui je vous conseille de lire parce qu'il y a l'avis de Tardy, de Mecton, de Capé sur To The Moon, et je crois que ça spoile pas du tout de mémoire, je l'ai lu il y a quelques jours déjà donc je suis plus sûr, mais il me semble que ça spoile pas du tout. Il y a un petit article sur Florence qui est donc un autre jeu qui a été testé par Tardy. Tardy a publié un tout petit avis sur le forum, donc là il faut fouiller un petit peu, mais ça se retrouve assez bien sur le Switch Flip. Flip Switch ou Flip Switch Flip? Je me souviens plus.
Le truc pour jouer à Ikaruga sur ta Switch.
Le truc pour jouer à Ikaruga sur ta Switch, donc pour mettre la Switch dans l'autre sens, qui est très cool, qui est, je crois qu'on peut pas le... Enfin, c'était un Kickstarter, je suis pas sûr qu'on puisse le retrouver dans le commerce maintenant, donc bon. Ben voilà, mais en tout cas c'est cool. Nous avons un nouveau bot Mastodon, qui est en cours de rodage, et qui marche plutôt pas trop mal, donc normalement, les gens qui nous suivent sur Mastodon, je pense notamment à plein de gens qui nous ont répondu cette semaine en disant « Eh, le bot, il marche pas bien, attention, vous avez fait ça, attention, vous avez fait ça », voilà, maintenant, il va beaucoup mieux marcher, et il réhoste les images, il met des liens tout propres, il évite de couper des trucs, enfin bref, il marche beaucoup mieux. Je tiens à préciser aussi qu'en même temps que l'anniversaire de la Switch, c'était l'anniversaire de la maman de Triton sur Mastodon, donc joyeux anniversaire, hein. Ça lui fera plaisir. Voilà, et on va faire une pause musicale parce qu'il est grand temps.
Tardy nous dit que le Flip Grip est vendu.
Ah si, c'est vendu en magasin, d'accord, Fan Gamer en vend. Ok, très bien. J'ai rien dit. Donc voilà, un bon truc. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de shooters, notamment verticaux, qui sont disponibles sur l'eShop. Ça peut être une option intéressante, surtout que la plupart apparemment sont compatibles avec le mode tâté, donc le mode quand on met la... l'écran
ouais, ça se fait beaucoup. Je crois que même Ikaruga, la version Switch, bon après c'est Nicalis qui est dit, donc n'y allez pas. Ce sont des connards,
mais c'est un bon jeu.
Bah, piquez-le.
C'est un bon jeu. Ça. Ouais, achetez-le sur Steam, ça ira directement dans la poche à 13h.
Bah voilà, c'est peut-être pas plus mal. Sinon, achetez-le sur GameCube. Bref.
Ça ira directement dans la poche du mec d'eBay.
Ouais, c'est exactement ça, donc faites pas ça. Voilà.
La mafia du boulevard Voltaire.
T'as tout pigé.
Dans la, comment dire, la présipoté de Voltaire.
Ouais, ils sont tous en train de faire faillite. Hein.
Bah écoute, je ne sais pas, mais en tout cas...
Justice.
C'est peut-être pas plus mal.
On est bien d'accord.
Nous allons donc nous écouter un petit morceau de la bande originale de Darksiders, le tout premier. C'est le thème principal. Ça a été composé par Chris Velasco, Mike Regan et Scott Morton. C'est assez rigolo comme bande originale parce qu'en fait, ça se veut très sombre, très, très dur. On va voir, le jeu, c'est
Dark
un peu ça, c'est
tout
Dark
ça.
Fantasy, tout ça. Et en fait, t'as des morceaux comme ça très sympas avec des chœurs et tout qui marchent super bien et qui s'écoutent très bien même en dehors du jeu. Et donc c'est vraiment très cool. Voilà, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes. On se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Tour.
Et donc nous allons parler de Darksiders. Alors j'ai eu confirmation pendant la pause, Darksiders 1, Darksiders 2, Darksiders 3, tant pis. Donc on parlera de Tinky Winky, de Po, mais pas de Lala. Éventuellement de Dipsy. Parce qu'on parlera de Genesis tout à l'heure. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça exactement. Là. Alors, on va commencer par le...
Par le premier.
Par le premier. On va commencer par le début. Par le premier, donc Darksiders, sorti en 2010 sur Xbox 360, PC, PS3, puis sorti en 2016 sur Linux. Je sais que vous en avez rien à foutre, moi ça me fait plaisir.
Ah oui, d'accord.
Bah oui. En 2017 sur Wii U, ça a été un des tout derniers jeux à sortir sur Wii U. Je crois que c'est le dernier à sortir sur Wii U en Europe.
Alors que le 2 est un des premiers à être sorti sur Wii U.
Exactement. Et en 2019 sur Switch, la version remasterisée, sachant qu'il était sorti
War Master Edition.
Sachant qu'en 2017, en plus de la Wii U, il était sorti sur PS4, sur Xbox One et re sur PC.
Donc, voilà.
La War Master Edition qui en fait change quelques textures, fait que le jeu est à 60 FPS sur PC. Le chat est de nouveau perdu. Voilà, c'est parfait. c'est le cri du désespoir, tu vois, c'est vraiment...
Un peu ça.
Elle est au bout de sa vie. Voilà, donc l'édition War Master, c'est des textures refaites, 60 FPS sur les consoles, on va dire, de nouvelle génération. Sur Wii U, c'était 30 FPS, 720p, donc on va pas se plaindre. Surtout que le premier tournait à moins que ça, a priori, sur Xbox 360, par exemple. Et donc, c'est un jeu qui était à l'origine édité par THQ,
ouais,
qui était fait par Vigil Games, qui est en fait la compagnie de jeu qui avait été créée par Joseph Madureira.
Joe Mad,
qui est alors c'est un mangaka américain qui fait des comics, hein, du coup.
Alors,
oui, bah.
je balance mon fion tout de suite.
Vas-y.
Qui est un auteur spécialisé dans les histoires qui ne se terminent pas. Coucou Battle Chasers.
Alors voilà, Joe Mad, en fait.
Coucou Darksiders
aussi. Ouais. Joe Mad, c'est à l'origine un auteur de comics. Alors, dessinateur et auteur d'ailleurs, me semble-t-il, parce qu'il faisait oui, les dessins et les textes à la fois, ce qui n'est pas fréquent, hein, dans le monde du comics, c'est pas, pas si souvent que ça qu'on voit ça, et qui a l'habitude de faire effectivement des trucs de dark fantasy avec des gros bourrins plein de muscles, notamment Battle Chasers, mais qui a travaillé aussi chez, alors de mémoire, Marvel sur une petite partie des X-Men.
Oh, il a fait du Vertigo aussi, je crois.
Il a fait du Vertigo, il a été chez Image Comics, il a été chez Dark Horse Comics. Il me semble qu'il a travaillé un tout petit peu chez Archie, notamment pour le reboot de Sabrina, si je dis pas de bêtises. Faudrait le vérifier, je suis pas sûr pour le reboot de Sabrina parce que je confonds toujours avec un autre. Donc, à prendre avec des pincettes, mais voilà. Donc, c'est un monsieur qui est relativement connu dans le monde du comics, qui a un style très reconnaissable.
Ouais, avec un coup de crayon, tu le reconnais tout de suite.
Ouais, voilà, c'est vraiment les visages taillés à la serpe, les gros manteaux, enfin voilà, comics quoi, tu vois.
Des détails de ouf sur les armures.
Exactement. D'ailleurs, il y a un truc très drôle dans Darksider Genesis. Il y a Discord, en fait, c'est un sale con, il faut quand même le dire. Peut-être d'où son nom, c'est possible. Et en fait, à un moment, il dit t'es vraiment un gros chieur, War, parce qu'en fait, War, c'est le personnage super sérieux dans Darksiders. C'est genre, il est trop dark. Et il se prend très très au sérieux, et c'est genre, non, mais faut qu'on poursuive Samael, faut que t'arrêtes de jouer au con. Et Discord lui répond, ouais, toi, je pense qu'il faudrait d'autres visages qui font peur sur ton armure. Il y a un côté très second degré. Quand vous connaissez un peu le travail de Joe Mad, vous vous rendez compte que voilà, ça fait ça. Et bref, donc, Darksiders 1, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'apocalypse démarre un peu plus tôt que prévu. Donc, elle démarre de nos jours, en fait. Enfin, c'est l'idée. On accuse War, qui est un des quatre cavaliers de l'Apocalypse. On expliquera pour Darksiders 2 ce que sont les cavaliers de l'Apocalypse. Pour l'instant, on va le garder un peu de côté. Donc, Ger, qui est un des cavaliers de l'Apocalypse, est accusé.
Ah oui, d'ailleurs, chose très importante, hein, il s'appelle Ger dans la version française du jeu. Hein.
Ger dans le 1 et War dans le 2.
Ah oui, parce que dans le 2, ils ont dit non, on va pas mettre les noms
dans le
2, français.
Ouais, ils ont dit. Là, c'est marrant, c'est que dans Genesis, ils reviennent à Ger.
Moi, je trouve ça rigolo quand c'est en français.
Oui, toi tu es fan de Serval.
Exactement. Bah ouais, mais faut que tu dises que les Anglais, quand ils jouent au jeu, le mec s'appelle Guerre. Hein,
Oui, techniquement. Moi, je trouvais ça pas idiot du tout que le fait que le mec s'appelle Guerre, moi ça m'avait pas choqué. Hein. Je veux dire, après tout, c'est un cavalier de l'Apocalypse.
Ça passe très bien.
Ça passe très très bien, surtout que la VF est de très bonne qualité. Très bien doublée.
Je pensais qu'avoir joué le jeu en VF, ça marchait bien. Hein.
La VO est très bonne aussi. D'ailleurs, si vous voulez faire de la VO, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a monsieur le doubleur de Batman, Guillaume Darbois.
J'étais en train de chercher ça.
Je crois que c'est Darbois. Je sais plus s'il fait War ou s'il fait Samael. J'ai toujours un doute, mais je sais que sa voix est dedans parce que je l'ai reconnu du premier coup. Bref, il y a de très bons comédiens de doublage qui sont à l'œuvre dans Darksiders, donc là-dessus, c'est vraiment un bonheur. Enfin, ça vaut vraiment le coup. C'est Gilles très Morvan. Bien mis en scène. Voilà.
Gilles Morvan.
Ah, oui, Guerre. Aussi, oui. Guerre. Mais qui, effectivement, a une très bonne voix aussi. Bref, donc, on est vraiment dans de la... Enfin, c'est quali, quoi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est pas du triple A, c'est plutôt du... Pas vraiment de la série B non plus, mais on va dire que c'est du A. Parce que c'est THQ, donc c'est les jeux un peu bizarres, pas toujours très bien finis, mais qui sont quand même plutôt fun à la fin. Et donc voilà, donc Guerre est accusé d'avoir déclenché l'apocalypse un peu tôt, et donc du coup il est... Alors je crois que c'est endormi pendant 100 ans.
Ah, il est tué. Hein.
Il est tué, oui, mais il est ressuscité 100 ans après par le Conseil Ardent.
C'est là que tu vois que c'est un auteur de comics.
Oui, un peu.
C'est un peu ça.
Il dans est... une autre dimension parallèle.
C'est un peu ça. Donc le Conseil Ardent, c'est pas vraiment ce que c'est, et c'est pas des anges, c'est pas des démons, ils sont entre les trois royaumes en fait. C'est ni le royaume Terre, ni le royaume des anges, ni le royaume des démons. Ils sont là pour maintenir l'équilibre. Et en fait, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, ce sont là pour maintenir l'équilibre. Et donc on l'accuse d'avoir rompu d'avoir déclenché l'Apocalypse, alors que c'est pas lui. Et donc il veut sa vengeance, et donc il va rétablir l'équilibre, et aller casser la gueule. Ah, ça a un peu spoilé la fin, mais en fait on le voit venir gros Kafrit que c'est Samael le méchant. Hein. Je vous rassure, le retournement il est hyper prévisible parce que c'est
non,
un comics.
Pas dans le premier.
Ah si, dans le premier. T'es
en... Je sais plus la fin du premier. Je crois que tu vois rien à la fin du premier.
Oui, c'est effectivement. Mais au départ c'est Samael et tu te doutes que c'est un traître. Et en fait oui c'est un traître mais pas vraiment.
En vrai, ça va être Samael quoi.
Et bon bah voilà. Et donc Samael, tu vas le voir, il te dit bah tu vas aller chercher les quatre cœurs des quatre boss à ces quatre endroits-là, tu te démerdes et après on verra bien ce qui va se passer.
Puis après tu retires l'épée de légende et attends.
C'est exactement ça.
Mais oui, c'est un Zelda-like.
Donc parlons de l'éléphant dans la pièce.
Oui, parlons de l'éléphant dans la pièce. Donc oui, c'est un Zelda-like.
Ça marche bien, ça fait plaisir.
Enfin, c'est même plus
rare. Je sais qu'il nous dit en fait son but c'est juste une mise à jour de stabilité, oui.
C'est-à-dire que Windows. Et en fait, justement, il a été présenté comme ça à l'époque de sa sortie. C'est en gros, c'était à la fois c'était un mélange entre Zelda et God of War. Parce qu'il y a un côté beat'em all et combat un peu plus poussé que dans Zelda. Ce qui résume assez bien le système de combat de God of War. Je peux pas me faire que des amis avec cette phrase. Bah en gros, c'était ça l'idée. C'était, voilà, on vous fait un truc un peu plus... un Zelda un peu plus velu, un Zelda pour bonhomme.
Bah c'est un peu ça, c'est le Zelda avec de la Dark Fantasy, le Zelda pour bonhomme, où effectivement, t'as une putain de grosse épée. Et en fait, c'est le jeu du badass. C'est-à-dire que le simple... Enfin, ouvrir un coffre, tu le fais de manière badass. C'est-à-dire que tu donnes un gros coup de poing dedans et tu lui arraches la serrure, c'est juste ça quoi.
C'est un peu ça le côté God of War, c'est pas tant le côté combat, même si pour moi c'est vrai qu'il était un peu plus poussé que dans le Zelda précédent, Darksiders qui était Twilight Princess de mémoire, vu l'époque. Mais il y a aussi dans l'ambiance et un peu le style, bon après c'est pas aussi sanglant et gratuit en termes de violence et de sexe que God of War, mais il y a une volonté de faire un truc un peu plus mature avec des... Alors je sais pas si vous voyez les guillemets là que je suis en train de faire.
Les R guillemets
favorites. Mais c'était un petit peu sur ça que ça a été vendu. Et en plus, c'est vrai qu'il est sorti à une époque où quand même, Zelda venait de sortir de deux épisodes un petit peu contestés qui étaient Wind Waker et Twilight Princess, qui étaient des épisodes qui n'ont pas fait l'unanimité autant qu'Ocarina of Time. Il n'y en avait pas eu un depuis 4 ans. À ce moment-là, donc c'est vrai qu'il y avait un petit peu un boulevard pour ce jeu et ça lui a permis quand même de gagner un petit peu de respectabilité et de dire ah bah les gens ont dit c'est plutôt cool, tu vois, genre c'est un peu ça défonce un petit peu Zelda, bon dans les faits non, mais
y a beaucoup de gens qui disaient c'est un bon Zelda pour ceux qui n'ont pas de Zelda.
Exactement, en fait c'est un peu comme Okami.
Tu vas pas te faire des potes là.
Je vous laisse interpréter ce que je viens de dire comme vous voulez, dans quel sens vous voulez.
Non mais voilà, c'est un Zelda-like avec un côté beat'em all, combat un petit peu plus assumé, avec effectivement le côté comics, badass, violence. Enfin, il y a vraiment des scènes, même in-game, hein, pas forcément des cutscenes, mais vraiment des scènes in-game,
oui,
où tu pourrais prendre un screenshot, tu le mets sur une page verticale A4 et t'as une page de comics, quoi, clairement.
Ouais, d'ailleurs, c'était un truc qui faisait que le jeu marchait bien et moi m'avait aussi séduit le fait que je l'ai fait sur PC. C'est le style visuel qui était plutôt cool. On sortait quand même d'une... On était en plein milieu d'une génération où, en fait, les jeux gris, c'était un peu le truc à la mode.
Ouais, gris, marron.
Bon, là, c'est pas non plus la palette de couleurs flashy de Pikmin, tu vois.
Non, mais t'as quand même un monde... Alors, ce qui est rigolo, c'est que même si le monde est en ruine, il est quand même plus coloré et plus...
Que le monde de l'intro.
Et plus varié. Alors, le monde de l'intro, c'est une ville, donc effectivement, c'est gris et tout ça. Mais derrière, tu fais un passage dans un système d'égout complètement à l'abandon, puisqu'en fait, la plupart du jeu se passe sur Terre, mais sur la Terre, 100 ans après l'apocalypse, donc il n'y a plus grand monde. Il y a des zombies, c'est à peu près tout. Mais t'as des passages avec de la verdure, avec de l'eau, avec voilà, t'as un passage dans un désert avec du sable, t'as un passage un peu plus sombre dans une ville, dans une espèce de cathédrale de métal, je crois d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle s'appelle, il me semble.
C'est le dernier donjon, ça.
C'est le dernier donjon, ouais. Qui s'appelle comme ça, avec des araignées partout.
Canopée de métal.
La canopée de métal, avec des noms cool en plus, à chaque fois, ouais. Canopée de métal, c'est cool.
JBC qui nous dit, à juste titre, c'est un beat the mall avec un level design qui se contente pas d'être un long couloir.
Oui, c'est vrai.
Parce que en fait, ils ont donc le côté Zelda, c'est que ouais, faut aller buter des mecs et récupérer leurs orbes, mais c'est des donjons en fait que tu vas parcourir.
Et avec des énigmes. Du coup.
Avec des énigmes et un objet du donjon. Donc je crois qu'il a un équivalent de, je crois que le mec a un équivalent de grappin avant la fin du jeu. Je sais plus ce qu'il y a d'autre.
C'est ça. Il y a un boomerang qui est d'ailleurs.
Mais c'est des lames en fait. C'est un boomerang plus badass.
C'est un boomerang badass. Non mais c'est toujours le même principe en fait. Le mec il a une faux badass. C'est toujours pareil, quoi. Il y a vraiment ce côté très exagéré, finalement.
Le dernier, c'est les portails. C'était
les portails,
cool,
ouais. C'est cool, mais c'est le bordel. Hein.
Putain, ah oui, il y a les portails, oui, effectivement, il y a le portail gueule.
Alors, en fait, voilà, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a donc... Le premier donjon est hyper bien foutu, même si t'as pas grand-chose comme arme, parce que finalement, il t'oblige... C'est une espèce de manoir, plus ou moins, une espèce de grande maison, en fait, dans lequel l'objectif, c'est d'aller en bas. Ça ressemble beaucoup aux découteries, dans le principe. À l'arbre mojo, hein. Mais tu fais le tour et t'es obligé en fait de faire des allers-retours dans les pièces pour aller débloquer les différents trucs et tout ça, donc c'est très bien foutu. Ce premier donjon, il te met vraiment en appétit, il n'y a pas de problème, il marche bien. Le second donjon, je l'ai trouvé extrêmement mal foutu. C'est dans le métro où t'as l'espèce de scorpion à la fin.
Alors, c'est dans le métro, est-ce qu'il y a eu des retards et des soucis sur les voies,
hein. C'est peut-être ça que t'as pas aimé. Non. Hein. Par contre, il y a plein de gens avec des masques qui essaient de pas se toucher.
Ça, c'est difficile dans le métro. Alors, vous voulez nous excuser, nous avons un retard sur la ligne, un scorpion se trouve en plein milieu.
C'est un peu ça. En fait, je trouve que le boss était intéressant à battre, mais le donjon lui-même était pas terrible. Il y a des boss énigmes, c'est exactement ça. Et celui-là, ça fait partie des boss énigmes. Faut vraiment, enfin, pas te creuser la tête, faut pas exagérer, mais faut arriver à
trouver l'astuce.
T'as une astuce.
C'est pas si explicite que ça, mais en même temps, c'est pas impossible à trouver. Donc t'es pas obligé de regarder une soluce, mais il faut quand même arriver à essayer de comprendre comment ça marche. La canopée de métal, justement, était plutôt sympa comme niveau, parce que c'est pareil, tu reviens à un niveau pas trop labyrinthique, mais dans lequel t'es obligé de battre des grosses araignées qui vont en fait ouvrir une grosse porte qui est celle du boss. Donc c'est plutôt original la façon dont c'est foutu. Le boss lui-même est vachement intéressant aussi, parce que c'est pas juste du bourrinage, c'est effectivement un boss un peu énigme dans lequel tu dois réfléchir un petit peu et te servir de l'objet du donjon. Classique dans un Zelda, finalement, mais ça marche bien. Et le dernier boss, c'est avec les portails. Donc je crois que tu récupères dans l'ordre... Alors tu récupères le grappin, le boomerang, le poing, le truc qui te permet de casser les blocs de glace, donc le grappin, qui te permet de faire plein de trucs avec les araignées, et puis qui grappine, c'est avec grappinou. Et le dernier truc, c'est donc le portal gun. Enfin, le portal gun, c'est-à-dire que tu peux aller sur les surfaces prévues à cet effet, hein, c'est pas n'importe où. Tu peux aller déposer un portail d'entrée, un portail de sortie, et ça fait la même chose que le portal gun, en fait, ça, de ce point de vue-là, c'est pas très original, mais si tu sautes de haut, bah ça t'expulse un peu plus haut, si t'envoies un objet, il va se retrouver de l'autre côté, enfin bref, c'est un peu le bordel. Et du coup, dans ce donjon-là, celui-là, il est vraiment bien prise de tête. Il est excellent. L'idée, c'est que tu vas... T'as 4 embranchements, tu vas aller dans un coin du donjon, tu vas battre une certaine créature, qui est une espèce de créature énigme aussi, d'ailleurs. Ouais. c'est assez rigolo. Et en fait, ça libère les âmes qui sont dans la pièce ou je sais pas trop quoi, et ça fait une espèce de rayon, et le rayon, faut que tu te démerdes pour aller le ramener au centre du donjon. Et il faut se servir du portal gun pour aller le ramener. Donc déjà, faut galérer avec le portal gun pour aller jusqu'au golem, et ensuite, faut galérer pour aller revenir, faire revenir le rayon jusqu'au centre du donjon. C'était vraiment très, 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 très bien foutu. C'était un de mes donjons préférés avec le premier. Il est vraiment super original.
C'est vrai que c'était cool celui-là. Le premier rayon, ça se fait assez facilement et à chaque fois, il complique le truc en rajoutant des jeux de miroirs, des bordels. Des...
Oui, voilà, des trucs intermédiaires, des pièces dans lesquelles il faut réactiver tel truc, faire baisser tel machin, sauter par-dessus un truc, ramener un bloc à un endroit pour faire contrepoids.
Pour faire poids,
enfin, c'est, voilà, c'est le truc qui est complètement délirant. Et c'est très 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 cool. Et après, ça part un peu en couille et c'est là où le jeu m'a un peu déçu. On en parlait un petit peu pendant la pause musicale. Il se passe, bon, péripéties, hein.
Révélation.
Révélation de Ouvgudin, traîtrise, enfin, tout ce que tu peux t'attendre de ça. Et après, séquence Metroid Prime, faut que t'ailles chercher toutes les clés,
un peu partout.
Et là,
vas-y, backtrack, ma gueule.
C'est ça. Alors, ça te permet d'aller récupérer des objets, parce qu'en fait, je sais pas si c'est moi ou si c'est le jeu qui est foutu comme ça. Mais je trouve qu'on trouve très peu d'objets, notamment de vie.
Dans celui-là, oh, il y a régulièrement des coffres quand même.
Ouais, mais des coffres qui contiennent de... Mais je parle d'extension de vie, en fait, t'en trouves quand même très peu, sauf justement au moment où tu backtrack.
En fin de boss, j'en ai eu. Et ouais, non, ça marche à coup de. C'est des fragments de cœur, en gros. Quoi.
Oui, de toute façon, t'as des quarts de cœur, et puis t'as de la magie. C'est le courroux, parce que c'est de la magie badass.
Quand je l'ai fini, parce que je l'ai refait cette semaine, du coup, il se fait en 25 heures, on va dire. 25 heures en ligne droite.
J'ai mis 15 heures, moi.
Ouais, et enfin, je me suis rendu compte, mais je l'ai goldé le truc. Hein. J'avais tous les points de TP. Ouais.
T'avais tous les morceaux de l'armure de l'Apocalypse.
Je me suis éclaté. Il y a une armure d'Apocalypse. Non, ça, j'ai pas fait ça.
Bah, il y a une armure.
Les coffres cachés.
Les coffres cachés, tu as la.
Ok.
Tu as les morceaux de je sais pas quoi que tu échanges avec Vulgrim.
Des caleçons de Lothric premier.
C'est un peu le caleçon sacrificiel de Lothric premier. Et tu as l'armure de l'Apocalypse, qui est juste un truc visuel en fait, ça fait rien de plus que ça.
Ok, ah, et tant que j'y pense, l'espèce de Joker à la con, là, il sert à quelque chose ?
Je vois de quoi tu parles.
Je suis tombé dans une pièce où il y a un espèce de squelette qui m'a foncé dessus, qui m'a fait genre bien jouer l'ami, c'est barré avec mes thunes, je l'ai jamais revu.
Non, je suis pas tombé là-dessus.
Je me suis dit, ok, c'est un connard qu'on doit trouver à 4-5 endroits du jeu, j'ai la flemme, il est où le boss, quoi.
Ceci n'est pas une feature, ceci était un bug.
Oui, peut-être.
Bref, mais on va dire en ligne droite. Quand tu suis l'histoire et avec les détours qui sont prévus à cet effet, il y en a pour une grosse quinzaine d'heures, je dirais. Si tu te mets en facile.
Ouais, dans ces eaux-là.
Si tu te mets en normal.
Je l'ai fait en normal.
Ouais, en normal, tu t'en chies un petit peu plus.
Je l'ai fait en normal, je me suis juste empalé sur 2-3 boss, mais honnêtement, ça passe. Quoi. Y a pas...
Le seul truc que moi j'ai. Enfin, il y a deux trucs que j'ai trouvé très relous.
Une fois que t'as géré les esquives, ça va.
Ouais, une fois que tu gères les esquives, ça va, ça c'est clair. Mais je trouve que recharger sa vie, c'est une galère sans nom.
Alors, tu peux le faire en faisant les finishes sur les ennemis.
Ouais, mais en normal, ça marche plus.
J'allais dire, oui, de mémoire, en arrivant au dernier boss, je devais avoir 4 barres de vie supplémentaires.
Ce qui est pas énorme, parce que ça part assez vite.
Ah, mais le dernier boss, à chaque fois qu'il touche, il t'en vire une. Quoi.
Il t'en vire une, ouais, ça va quand même très vite. Mais même regagner de la vie, de manière générale, il faut la trouver dans des coffres. En fait, tu la trouves pas vraiment sur des ennemis.
Ou les cordes. Crèves.
Où tu crèves et tu recommences.
Et tu recommences et t'as 3 ou 4 barres de vie pleines.
Ouais, c'est ça. Donc, ça, j'ai trouvé ça un peu dommage que ce soit pas plus simple que ça de recharger sa vie. C'est-à-dire, le moyen plus simple de recharger sa vie, en fait, c'est de retourner à la croisée des chemins, qui est en fait l'espèce de très gros hub.
Et d'acheter des potes.
Central. Non, de casser la gueule au corbeau.
Ah, oui.
Qui te lâche des points de vie. Mmh. Et de recharger la zone de jeu pour recommencer. C'est quand même très con. Et il y a un deuxième truc qui, moi, m'a rendu dingue à un moment, parce qu'il y a... Alors, il y a quelques passages de plateforme. Pas énorme.
Mal fait, ça.
Ouais, alors...
Alors, le problème...
Marche mieux dans le 2.
Marche beaucoup mieux dans le 2. Le problème, en fait, c'est que il faut que tu sautes, puis que tu avances. Si tu avances et que tu sautes, tu te casses la gueule. T'as pas de coyote time, en fait. Et je suis tombé un nombre incalculable de fois parce que moi, j'ai le réflexe d'effectivement avancer et sauter quand je suis au bord de la plateforme, alors qu'en fait, il faut sauter puis avancer. Et ça, c'est vraiment un truc à la con. Parce que c'est un défaut tout bête qui aurait pu être corrigé dans la version War Mastered, du coup. ça n'a pas été. Je trouve ça quand même hyper, hyper dommage, parce que ça, je trouve qu'on perd vraiment là-dessus, quoi. C'est un défaut à la con, mais voilà. Enfin, bref. Donc, Darksiders, c'est cool. Enfin, en tout cas, le premier, il est vraiment très bien.
Et le rapport qualité-prix est excellent.
Alors, sur Switch, surtout, le rapport qualité-prix est excellent. Le jeu neuf, il vaut 20 balles. Mm-mm. 20 balles, le jeu est intégralement sur la cartouche, il n'y a pas de mise à jour.
Il n'y a aucun patch. Ouais, c'est...
Ouais, le jeu a 10 ans, hein, donc c'est bon.
Tu sais, je m'attendais à avoir un patch de stabilité, hein, t'as une connerie, quoi.
Non, ouais, tu mets ta cartouche, pour remettre l'équilibre, tu vois. C'est... voilà, le jeu est vraiment, encore une fois, de... Enfin, la qualité de finition et le production value impeccable.
Non, mais, oui, il y a du décor, vraiment... il y a du détail, tu sens qu'ils ont bossé.
Et en fait, quand tu, je pense qu'en fait, tu t'apprécies encore plus le jeu quand t'es un peu un fan de comics, un fan de Joseph Madureira encore plus. Mais quand t'es un fan des comics, de, on va dire, du Dark Age of Comics, donc fin des années 90, début des années 2000, où t'avais vraiment que des trucs de dark fantasy, un peu comme ça, avec des personnages un peu délirants, avec des gros muscles et tout ça, je trouve que le jeu est vraiment très cool, il est très bien doublé, que ce soit en français ou en anglais. L'histoire est cool à suivre, même si elle n'est pas toujours très claire. Très bonne mise en scène. Il y a vraiment des trucs cool. Moi, j'ai vraiment énormément apprécié de le faire. Si vous êtes un guerrier, vous pouvez le faire sur Wii U.
Ouais, mais faites-le sur Switch.
Faites-le sur Switch, franchement. Ça, surtout en portable, c'est du bonheur.
Et puis en plus, si vous aimez bien les Zelda 3D de l'époque Ocarina of Time jusqu'à Twilight Princess inclus, même Skyward Sword un petit peu, bah, c'est un peu le bon plan, parce que globalement, je pense que Nintendo ne refera pas des jeux comme ça avant très longtemps.
Ce qui nous amène à Darksiders 2.
On joue avec mort.
Alors, Darksiders 2. Definitive Edition.
Definitive Edition. Donc Darksiders 2, il est sorti en 2012 sur Xbox 360, PC, PS3 et quand la Wii U est sortie sur Wii U. Donc c'était un des jeux du lancement.
Donc 2 ans après le premier Darksiders, je crois que c'est un des derniers jeux de THQ.
C'est un des. C'est, je
Vigil, demande, c'est sûr.
The Vigil,
c'est certain. THQ, c'est peut-être pas le dernier, mais ça va pas être très loin, ça c'est clair. Il est ressorti en 2015, donc 3 ans après, sur PS4, Xbox One et PC, donc c'était la Definitive Edition, effectivement, avec du jeu de mots de qualité, hein, vous aurez remarqué. Et il est sorti en 2019 sur Switch, toujours la Definitive Edition, c'est-à-dire on a tous les DLC. Alors je crois que sur Darksiders 1, il y a aussi dans la War Master Edition tous les DLC, mais je crois que les DLC, je sais pas ce que c'est en fait.
Alors je les ai pas vus, si t'en as.
Je les ai pas vus, je pense qu'il y en
c'est
a.
C'est pas
je
des sais trucs pas cosmétiques
Ou c'est une zone supplémentaire, mais je l'ai pas vu. Je me souviens plus du tout, mais ça m'a vraiment pas marqué, parce qu'en fait, je trouve que l'histoire elle-même, enfin le jeu lui-même se tient bien tout seul, et donc je suis pas certain qu'il y ait vraiment besoin d'en rajouter en fait. C'est aussi con que ça. Et donc Darksiders 2, on incarne Death, donc la mort, le deuxième cavalier de l'apocalypse, et dont on apprend, alors les cavaliers, c'est une race un peu particulière, ce ne sont pas des humains, ce sont des Néphilim, qui en fait est une espèce de créature, un hybride entre un ange et un humain, si je me rappelle bien. Donc c'est
peut-être.
Des gens... voilà. C'est en fait, pendant la création, c'est une erreur de la création. Donc, le conseil a décidé de tous les éliminer, parce que génocide, je veux dire classique, hein, Dark Fantasy, tout ça.
Vite fait, bien fait.
Vite fait, et ils en ont gardé juste 4, donc War, Death, Fury et Discord, qui sont donc les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Sauf que Death, lui, a gardé toutes les âmes des Néphilim dans...
une ampoule.
Une ampoule qu'il a sur la poitrine, dans son cœur. Donc il a gardé toutes les âmes des Néphilim, et ça va avoir une grande importance pour l'histoire du 2, qui est bien plus intéressante et bien mieux foutue que le 1, même si un petit peu plus confuse au début, mais vraiment là, le payoff à la fin vaut la peine, donc je vais vraiment pas spoiler du tout, parce que je trouve que c'est vachement bien foutu.
Mais le révélation jeu, il charge plus doucement. Il charge plus doucement, quoi. Les temps de chargement du 2, du coup, c'est un peu plus long.
Oui, c'est un peu plus long.
C'est parce qu'il y a plus d'histoire dedans.
Peut-être parce qu'il y a plus d'histoire dedans.
Ou c'est mal optimisé.
Ou c'est mal optimisé. Bref, donc on suit Death qui va arriver dans le monde des fondateurs, qui est soumis à la corruption. Alors normalement, c'est juste après que War ait déclenché l'apocalypse, donc War n'est pas encore là, ça se passe un peu avant Darksiders 1, du coup, si vous suivez un peu. Et ce qui est rigolo, c'est que le monde des fondateurs, en fait, c'est vachement plus verdoyant. Alors t'as une
très château haute... dans le ciel, quoi.
C'est ça, ouais. t'as une grande plaine qui ressemble beaucoup à la plaine d'Hyrule, on va pas se cacher, très verdoyante. T'as un volcan profond, où ça doit être le deuxième donjon si je de mémoire. Il y a une montagne très haute, mais qui est plutôt thème neige. C'est pas vraiment la montagne de la mort qui était plutôt un volcan. Là, le volcan il est plutôt dans les profondeurs. Là c'est un thème neige, tout ça. Ce qui est intéressant surtout, c'est que le gameplay change très légèrement. Alors c'est toujours du beat'em all avec du Zelda, hein, ça, il n'y a pas de...
Ouais, mais ils ont mis un peu de Prince of Persia à ce coup-ci.
Exactement. C'est-à-dire que
Death... un peu de Diablo aussi.
Un peu de...
Oui.
Oui, un petit peu. Oui, parce qu'il y a du loot, il y a beaucoup plus de... Oui, il y a du loot, il y a de, l'équipement à changer et tout ça.
Ouais, parce que contrairement au premier Darksiders où t'avais une arme et elle s'upgrade de temps en temps, de mémoire, une ou deux armes.
C'est ça.
Là, tu peux avoir pléthore de loot, d'armes avec des noms de couleurs différents, pour te dire si c'est plus ou moins bien.
Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais te demander, Mecton, parce que toi, tu as joué à la version Switch.
Je suis en plein dedans, ouais.
Parce que moi, j'ai joué à la version Wii U pour le 2. J'ai lancé la version Switch, mais j'ai pas fait plus loin que ça. Je me rappelle qu'il y avait un drop rate totalement fumé, c'est-à-dire que tous les ennemis lâchent des armes et tu les ramasses automatiquement.
Alors tous, non. Le ramassage auto, tu le paramètres, et le tous, non, c'est globalement 1 sur 2, 1 sur 3. Quoi. Ça dépend si c'est du trash mob ou du mob de qualité.
Parce que je me rappelle que sur Wii U, heureusement qu'il y avait le gamepad avec tout l'inventaire disponible en permanence, parce que je passais mon temps à jeter des armes. Quoi.
Ouais. Ça, je les donne à manger à une autre arme.
Oui, voilà.
C'est rigolo.
Effectivement, c'est rigolo. Mais voilà, donc il y a quelques petites nouveautés. Et surtout, Death, il est beaucoup plus léger. En fait, c'est pas War, c'est vraiment une espèce de brute épaisse avec une énorme armure. Alors que Death, il est à moitié à poil.
Peu le voleur de l'équipe.
C'est un peu ça, ouais. Et il est beaucoup plus souple, il est beaucoup plus agile. Et t'as effectivement beaucoup de passages de plateforme et de Prince of Persia, vraiment pas d'autres termes, de grimpettes dans le décor dans lequel t'es censé aller trouver... Très vertical. T'as des donjons vachement sympas. Le premier, pareil, par exemple, il est ouf, quoi.
Et pareil, niveau décor, il raconte une histoire, les donjons.
Oui, c'est vrai.
Tu te plantes au milieu de la salle, tu regardes un peu et tu sens qu'il y a du taf, quoi.
Je trouve que, alors autant le premier, comme le thème, c'était plutôt la terre dévastée, t'avais. Alors certes, t'avais un désert, t'avais une ville, t'avais un truc un peu plus verdoyant, t'avais un métro, t'avais. T'avais quand même un peu de diversité dans les décors, c'était sympa. Je trouve qu'ils assument à 100% le côté, moi ce que j'appelle du néo-colcosien, c'est-à-dire l'espèce de statue gigantesque avec des visages énormes, tu sais, taillés à la serpe, façon Batman le défi de Tim Burton, tu sais, où t'avais des Gotham qui étaient toujours représentés avec des visages gigantesques, des statues énormes.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà, un peu l'ouvrier, la colcosienne... en URSS, où t'as cette espèce de gigantesque statue qui n'ont aucun sens.
C'est le Mont Rushmore, mais partout, quoi.
Ouais, voilà. Et je trouve que là, ils ont vraiment poussé le truc jusqu'au bout, et c'est, enfin, toujours pareil, quand on aime un peu ce design-là, quand on aime un peu le comics sympa, c'est vraiment hyper plaisant de naviguer dans ces décors-là.
Ouais, il y a limite un rendu cel-shading sur certains...
Ouais. Déjà, dans le premier,
t'avais
ce petit côté, oui, texture très lisse, finalement, pas forcément très détaillée, mais là, ouais, c'est encore plus. Oui.
Enfin, ouais, comme si on voyait les contours de Madureira, en fait.
C'est exactement ça. Tu verrais presque son coup de crayon sur certains trucs. Mm-hmm. Bah, c'est-à-dire que les gueules des fondateurs, il suffit de regarder. Hein, les...
Ah, mais oui.
Enfin, voilà. C'est...
Et les mains. Putain, oui, les mains.
Les mecs, ils ont des paluches. T'as intérêt à prendre une queue, là. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils sont vraiment genre 4 fois plus grands que toi, quoi.
Ouais. Parce qu'autant dans les trolls, rien à foutre.
C'est clair. Je trouve que les donjons sont vachement, vachement mieux foutus. Sauf, c'est Antix qui nous disait, lui, le jeu lui est tombé des mains. Nous re-raconter ça.
En fait, je joue au jeu, j'avoue que j'aimais bien. Et je suis tombé sur une section qui était la section. Alors, spoiler. Parce que c'est assez tard dans le jeu, il y a un moment, Def est envoyé sur Terre. Et il y a une espèce de section où ils te font utiliser une arme. Genre une espèce de section genre Gears of War où t'as une grosse mitraillette. Oh là là, et j'ai trouvé ça nul, et en fait, je me suis fait défoncer.
Ça t'avait pas gêné dans le premier ?
Bah, dans le premier, t'en as assez peu, et en fait, c'est pas obligatoire.
Oui, il y a la séquence shoot'em up à dos de licorne qui est obligatoire.
Ouais, mais là, je sais pas, je trouvais qu'en fait, ils essaient de faire un truc genre TPS façon Gears of War qui marchait pas du tout. Alors, t'as plus de sens de shoot dans le premier, je vais pas te mentir.
Dans le premier, il y a deux ou trois fois où tu peux récupérer une très grosse mitrailleuse et avoir une séquence de shoot, mais en fait, la très grosse mitrailleuse, t'en as besoin pour détruire un morceau de décor bien précis, et après, tu peux la lâcher et faire du combat normal, donc. C'est vraiment un choix, alors que là t'es obligé, ouais, t'as une vraie séquence de 10 bonnes minutes de
Gears
of War.
Ah oui, ok, d'accord, ok.
Et ouais, non, en fait, je me suis fait massacrer, et je trouvais ça particulièrement désagréable, et je crois que j'ai juste pas voulu relancer le jeu, et je l'ai arrêté là. Genre, ouais, au bout d'un moment, j'étais, bah, ouais, mais au final, voilà quoi, j'ai pas spécialement envie d'aller plus loin parce que très sincèrement l'histoire des Darksiders je m'en souviens plus du tout, à part que je joue les Cahiers de l'Apocalypse. Mais voilà, enfin, il m'est tombé des mains, c'est dommage parce que je trouve que c'était une bonne série, mais voilà, c'est pas... Je suis pas allé beaucoup plus loin après ça. Bah alors je pense que je devais quasiment être à la fin du jeu, un truc comme ça, mais... Voilà, c'était mon histoire avec Darksiders 2, je vais se reprendre.
En tout cas, bah,
je vois Fire Emblem.
Oui, je vais... Darksiders 2, c'est vrai qu'en dehors de cette séquence-là qui est pas marrante, je trouve que les donjons valent vraiment la peine. Le premier donjon est vraiment très 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 bon. Les boss sont peut-être un peu moins intéressants que le premier, je trouve.
Là, les trois que j'ai fait pour l'instant. Donc je suis au milieu du troisième donjon. Donc là, je viens de passer le mini-boss. Et il y a un bout de donjon annexe où je me suis marré. C'est toujours du boss énigme, mais pour l'instant, l'astuce, je l'ai trouvée juste complètement évidente.
Ouais, bah c'est un peu l'impression que ça m'avait laissé. Ce que je trouvais rigolo, c'est il y a un donjon qui se passe dans un bateau suspendu dans les airs, qui est assez marrant. Il y a le donjon des juges, qui est plutôt bien foutu aussi. Donc non, il y a vraiment des très bonnes choses là-dedans. Effectivement, je pense qu'il faut persévérer à travers le truc Gears of War, qui est quand même très pénible. Mm-hmm. Faut essayer de se le taper, surtout que le tout dernier donjon, comme le dernier donjon de Darksiders, le tout dernier donjon utilise un système de portail dimensionnel, mais avec de la grimpette en plus.
Et très honnêtement, 4D.
Voilà, ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très bon. Enfin, moi, en tout cas, je vous le recommande. Alors, pareil, c'est exactement comme Darksiders 1, faut aimer les Zelda, type Ocarina of Time, Twilight Princess. Alors, avec des donjons un peu inégaux, faut quand même être honnête. Mais globalement, un truc très sympa.
Je fais une parenthèse sur le deuxième, est un peu plus structuré en open world. Le premier, bon, toutes les zones sont connectées. Ça m'a rappelé un peu Soul River d'ailleurs. Je me le referais bien aussi celui-là. Le deuxième, t'as plus cette impression de découpage à la Twilight Princess. Donc t'as ta grande plaine au milieu, avec tes donjons tout autour. J'imagine qu'après ça se complexifie un peu.
Non, pas tellement.
D'accord. Au passage, techniquement, le premier, je l'ai trouvé impeccable de A à Z. Et je reviens, j'ai beaucoup apprécié les chargements rapides. Le deuxième, quand tu crèves, bah, tu te prends un temps de chargement à la Dark Souls. Tu comprends rapidement pourquoi t'as le cheval dès le début dans le deuxième, à cause de cette grande plaine centrale.
Ouais.
Mais alors, pour l'instant, la plaine, elle ne sert à rien.
Alors... spoiler, à un moment elle va servir et, et tu vas kiffer.
D'accord. Genre, j'espère kiffer parce que la première fois que je suis rentré dans cette plaine, le changement de résolution là tu le vois, il est immédiat.
Ah oui, non, c'est clair que par contre, techniquement, alors c'est un jeu qui est basé sur un moteur, c'est pas un moteur maison, mais c'est basé sur Avoc, sur un moteur qui était vendu avec Avoc, qui était fait par la société Avoc, qui n'existe plus, le moteur lui-même. J'ai l'impression que pour le portage, en fait, ils ont vraiment porté le moteur lui-même. Hein. Donc ils n'ont pas essayé de faire plus que ça. Donc du coup, effectivement, sur le 1 comme sur le 2 sur Switch, t'as quand même une option qualité et une option performance, ce qui est extrêmement appréciable. Pour information, l'option performance, c'est 720p60 et ça bouge pas sur le 1. Et l'option... qualité, c'est 30 fps, 1080p, et ça bouge pas. À quelques très rares exceptions près. Il y a quand même quelques sections où ça rame un petit peu. Le 2, moi je me rappelle d'un jeu qui était déjà pas forcément hyper beau sur Wii U et qui avait une certaine tendance à planter.
Ah ouais.
Okay. Oui. Là sur Switch, je sais pas ce que ça donne parce que voilà, mais j'ai l'impression que c'est de la résolution dynamique et c'est du 30 fps quoi qu'il arrive. T'as quand même un mode qualité, un mode perf si je me rappelle bien.
J'ai pas fait gaffe là pour le coup, j'ai pas encore les fouillés.
Voilà. Alors toujours pareil. Le jeu bougeait à 30 fps et il a été pensé à 30 fps sur Xbox 360 et PS3, donc y jouer à 30 fps c'est pas du tout gênant, et c'est très joli en plus, ça permet vraiment de profiter du jeu à 100%, c'est pas un jeu qui nécessite absolument d'avoir du 60 images par seconde. Maintenant, si vous avez envie de jouer à 60 fps, l'option est là. Et ça fait quand même plaisir. Faut quand même reconnaître que c'est sympa. Voilà, on va faire une deuxième petite pause musicale avant de faire un tout petit bout de Darksiders Genesis. Parce que là, le chat commence à s'impatienter.
Il est en train de faire la séquence Gears et il kiffe pas.
C'est un peu ça.
Ouais.
Je pense qu'il est dedans, il est en bad trip. Bref, donc on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Darksiders 2. Alors, je sais pas par qui elle a été composée, j'ai pas eu le temps de rechercher avant l'émission. Elle est beaucoup plus tribale et elle est beaucoup plus marquante.
Elle est plus présente.
Ce qui colle bien au fait que les héros sont en pagne.
C'est un peu ça. Effectivement, on a une certaine logique. Du coup, c'est très 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 sympa comme bande originale. Ça accompagne bien. Donc, le premier, effectivement, c'est plus discret. Là, dans le deuxième, elle est un peu moins discrète, mais je trouve qu'elle va très bien et avec le monde des fondateurs et avec. Voilà, elle accompagne vraiment très très bien l'action. C'est très sympa. Et donc, là, on va écouter les plaines abyssales, qui est en fait le niveau, grosso modo, du milieu du jeu, en fait. Voilà, l'équivalent du désert dans le premier, en fait. Voilà, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Et on va terminer cette émission de fanfare après avoir parlé de Darksiders 1, après avoir parlé de Darksiders 2, après ne pas avoir parlé de Darksiders 3.
Parce que personne n'y a joué.
Alors, THQ, Nordic...
Ah oui, voilà, parce que l'histoire qui s'est passée, c'est qu'après la sortie de Darksiders 2, THQ a fait faillite.
Oui.
Et les licences ont été rachetées par une société...
Nordic Games,
qui s'est renommée THQ Nordics, parce que globalement, ils ont racheté que des trucs de THQ. Voilà.
À partir de ce moment-là, ils ont fait beaucoup de ressorties de jeux, notamment sur Switch. T'as The Blob, The Blob 2, Darksiders, Darksiders 2.
Ah, je les aime bien.
C'est cool en fait.
Saints Row 3, Saints Row 4,
Sphinx,
de rien.
La malédiction de la momie. Donc non, ils ont, c'est sympa et ils ont dit qu'ils continueraient Darksiders et donc ils ont sorti Darksiders 3.
Alors qui s'appelle pas Darksiders 3, mais Darksiders Fury, je crois, non, un truc comme ça.
Non, il s'appelle Darksiders 3.
C'est le Darksiders 3
ouais. Donc si le Darksiders 1 mettait en scène guerre, Darksiders 2 mort, Darksiders 3 Fury, qui est donc la cavalière de l'apocalypse, qui est aussi une Néphilim, mais on n'y a pas joué, THQ Nordic, si tu veux le sortir sur Switch...
Ah oui, effectivement, Darksiders 3, autant pour moi.
Il tourne sur Unreal Engine 4, donc tu peux le faire. THQ Nordic, on t'attend, nous on serait très content d'y jouer sur Switch.
Grave.
Alors voilà. Moi, de ce que j'ai entendu du 3, c'est que c'est un petit beat'em all sympa... Donc si vous avez envie de faire la suite, voilà.
C'est pas
injouable et pas dégueulasse.
Je sais pas, mais du coup, alors déjà au deuxième épisode, la question se levait, mais si le troisième est encore un peu différent, moi ils ont les couilles de proposer un ton différent à chaque itération.
Alors, un petit tweak à chaque itération, ouais. C'est pas juste un réhash du jeu, à chaque fois ils essayent de pousser un peu le truc. Ça, les bases restent les mêmes, mais... Moi, je j'aime bien. Mmh. Je suis assez fan de ce genre de truc-là, et je trouve qu'on a, en ce moment, enfin, le monde du jeu vidéo, on a, maintenant, c'est les indés et les triple A, et je trouve que ça manque ces jeux A et double A, c'est-à-dire les trucs, les productions qui sont peut-être un petit peu en dessous en termes de production value, mais qui permettent quand même de faire des jeux sympas.
En fait, tu sais, c'est juste ouf, des trucs qui sont très bons et juste pas marketés, quoi.
Marketer, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué de marketer un jeu de ce type-là.
C'est généralement les jeux que se considèrent genre t'aimes bien le genre, tu vas y jouer, quoi.
C'est un peu ça. Et donc, Darksiders Genesis est sorti en mois de février sur Switch et support inférieur. Il tourne sur Unreal Engine 4, du coup, mais il est un peu floutasse, hein, faut être honnête, je vous le dis tout de suite, hein, faut pas chercher... la qualité de ouf sur Darksiders Genesis, et donc c'est encore un truc complètement différent, puisque là c'est une espèce de... Alors, c'est un Diablo-like twin-stick shooter beat'em all.
À tes souhaits.
Voilà. En fait, donc on a en fait une vue de Diablo-like, donc une vue isométrique, même si c'est de la 3D. Et on peut jouer deux personnages, donc soit Guerre, soit Discord. Et en fait, l'histoire se passe un tout petit peu avant Darksiders 1. D'où le nom, d'ailleurs, Darksiders Genesis. Alors, même si le 2, techniquement, se passait... Alors, le 2 se passait après l'intro du 1, mais avant l'action principale du 1.
En parallèle, quoi.
Voilà. C'est un peu compliqué. Et donc, on peut jouer soit Discord, qui est le nouveau cavalier qui fait des blagues à la con tout le temps. Alors, des fois, ça tombe un peu à plat, hein, faut quand même être honnête. Mais il y a des fois, c'est très drôle, parce que c'est très, très, très second degré. Et surtout, c'est très, très self-aware, en fait, comme blague. Le truc, il se moque de Joe Madureira.
Merde, c'est le Deadpool de l'univers.
C'est un peu ça, il se moque des comics. Il se moque de... ah ouais, donc là, on a trouvé une clé, il y a une porte. Ah, c'est original, quand même. Hein. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Il y a des fois, ça fait mouche, il y a des fois, ça tombe un peu à plat. Voilà, vous attendez pas à vous éclater de rire, mais souvent, c'est pas fin, mais ça tombe assez juste, en fait, je trouve. C'est plutôt rigolo, dans le principe. Et donc, la particularité de Discord, c'est que lui, il se bat essentiellement avec des flingues, et ça se contrôle comme un twin-stick shooter. C'est-à-dire qu'avec le stick de gauche, on contrôle Discord, et avec le stick de droit, on dirige là où il va tirer. Et il a plusieurs munitions sur son pistolet, donc on peut alterner avec ces différentes munitions qui vont être limitées dans certains cas, pas limitées dans d'autres, et avec plein de petites choses autour de ça. Donc c'est quand même assez rigolo, de ce point de vue-là. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle façon de jouer complète, Discord, et il est accompagné de War. Donc quand on joue à deux, il y en a un qui joue Discord et un qui joue War. War joue plus à une espèce de beat'em all traditionnel. C'est-à-dire techniquement, si c'était un Diablo, ce serait le guerrier, quoi.
Ok.
Voilà, donc il a son épée, sa faux, un grappin et pend dans les fesses, quoi. Mm. C'est à peu près le principe. Sachant qu'en termes de déroulement, alors j'ai pas fini le jeu, hein, je suis désolé, un petit peu autre chose à faire. C'est du jeu en coop, alors on n'est pas obligé d'y jouer en coop, on peut y jouer tout seul, ça marche très bien. Quand on y joue tout seul, on peut alterner en fait entre Discord et War à la volée. Donc c'est assez sympa parce qu'en fait, il y a certains ennemis qui sont, on va dire, certaines situations dans lesquelles Guerre va être un peu plus adaptée que Discord. Il y a non, notamment certains... Oui.
Tu veux dire en pur combat ou ils ont gardé des petites énigmes?
Alors c'est quand même pur combat là. C'est... Okay. T'avances, tu casses des gueules, t'avances. Et de temps en temps, t'as effectivement, à un moment, t'as une porte fermée, et faut aller lancer le boomerang de Guerre sur deux cristaux. Enfin, ça reste très limité. Faut plus que t'imagines ça comme un Diablo, c'est-à-dire que t'arrives, t'es coincé, il y a une porte qui est fermée parce que t'es à la fin d'une pièce, faut que tu trouves le moyen d'ouvrir la porte, mais le moyen d'ouvrir la porte, c'est soit battre tous les ennemis, soit aller activer deux leviers en même temps avec les deux persos, quoi.
Ok.
Ça va chercher difficilement plus loin que ça. Et donc tu peux jouer en coop, c'est très rigolo, tu peux jouer en coop en local, tu peux jouer en coop en ligne. Et je serais très curieux de tester le mode en ligne, donc ça mec, faut absolument cool. Qu'on s'en fasse un.
Ouais, faut qu'on essaye.
Pareil,
il est... Donc pour le coup, celui-là, il est récent, il sort sur Switch, il est inédit en même temps que sur les autres plateformes, et il est quand même à 30 balles.
40.
Ah, je l'ai eu à 35, j'avoue.
Tu l'as eu à 35.
Ouais.
Mais voilà, le prix, le retail price, enfin le prix en magasin, c'est 40. Et honnêtement, ça les vaut. Il y a apparemment une vingtaine d'heures de jeu. Ça reste un Diablo-like. Ça a l'air d'être très linéaire par rapport aux autres. C'est-à-dire, c'est vraiment chapitre 1, t'arrives à la fin, il y a un boss, tu t'enchaînes sur le chapitre 2 où tu arrives dans l'antre du serpent. Qui est Alors, le truc dans Darksiders 1, pas dans Darksiders 2 d'ailleurs, c'est rigolo, qui est en fait l'endroit qui permet de se téléporter d'un point du monde à un autre. Donc là, t'as Vulgrim en fait qui va te confier des trucs. Vulgrim étant le marchand de Darksiders 1 qu'on retrouve pas, me semble-t-il, dans Darksiders 2.
Si, si, il y
est. Ah, si, pardon.
Il y est, mais il est beaucoup moins. Il a trois répliques et basta, quoi.
Oui, voilà, c'est un peu limité. Mais donc voilà, Vulgrim te confie en gros des missions. Tu vas aller récupérer des trucs, tu lui rends des petits services et puis tu avances au fur et à mesure l'histoire. Et donc à la fin de chaque chapitre, tu vas avoir alors soit un boss, soit une énigme un peu compliquée, soit les deux. Et franchement, bah, moi j'ai trouvé ça. Enfin, je trouve ça cool pour l'instant, j'en suis à 4 chapitres. Je pense qu'il y en a une bonne douzaine, quinzaine. J'ai pas regardé exactement avant. Je serais vraiment très curieux de d'essayer en coop, parce que je me dis qu'avec effectivement Discord en Twin Stick Shooter et Guerre en corps à corps, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très très marrant, je pense.
Comment ça marche? Tu crées ta session de coop, tu joues un chapitre complet ou tu...
Alors t'as des piliers en fait, au début de chaque chapitre, alors sauf le premier chapitre, le pilier il arrive à peu près au milieu du chapitre, t'as un pilier, okay. Et en fait quand tu appuies sur A à côté du pilier, il te dit bah ok, alors c'est assez bizarre comment c'est lancé, il dit bah je vais lancer un split screen, il te met sur l'écran de gauche, et sur l'écran de droite il attend quelqu'un.
D'accord.
Et donc quand tu joues en ligne, bah tu peux avoir un pote qui te rejoint.
Ok.
Et quand tu joues en local, il y a un mec qui prend une manette, il appuie sur le bouton, pouf, ça y est, il drop in. C'est parti.
Ok, c'est cool.
Et du coup, ouais, c'est cool. Au départ, je m'étais dit, ça va être super répétitif. En fait, non, les patterns des ennemis varient. Les ennemis varient un peu. Ça ressemble plus... Alors, comme j'ai plutôt tendance à jouer avec Discord, parce que c'est cool, c'est du twin-stick shooter, c'est assez marrant à faire, tu vas avoir cette petite tendance que t'as dans un Geometry Wars, par exemple, à, tu sais, balayer l'écran pour essayer d'arroser le plus d'ennemis, les stopper, tu fais un petit peu du crowd control dans certains cas, ça explose de partout, t'as des orbes vertes, des orbes bleues, des orbes jaunes, des orbes violettes pour recharger tes armes, ta vie, ta magie, ton truc, donc tu vois, c'est hyper dynamique, y a des gros chiffres partout, enfin voilà, c'est bien ça. Les gros chiffres.
C'est la nouveauté du 2 d'ailleurs, les gros chiffres à l'écran.
Ouais, c'est ça, les gros chiffres à l'écran. Bah là, c'est un peu pareil. C'est assez cool. Le seul vrai défaut que je lui trouve, on nous demande est-ce que la version portable n'est pas trop pétée. En fait, non, la version portable marche plutôt bien. Le seul truc, c'est que la résolution est un peu faible. Ça reste de l'Unreal Engine 4. Et je pense que le portage, il a peut-être pas été fait dans les règles de l'art de ce point de vue-là. Ça reste du jeu à moyen budget. Et du coup, c'est quand même un peu floutasse dans certains cas, surtout quand t'as des scènes avec des arrière-plans relativement détaillés. Voilà, ça reste un peu floutasse. Et il a un peu le même défaut que Darksiders 1 et 2, je trouve. C'est-à-dire que je trouve que les commandes dans Darksiders sont un peu foutraques.
Ah oui, alors... Oui, je pense voir la combinaison de touches à laquelle tu peux...
Voilà.
Pour donc activer en fait, la super forme.
C'est ça, quand tu appuies sur L, quand tu maintiens L, en fait, tu accèdes à une roue des pouvoirs qui marche avec les boutons X, Y, A, B. Tu as déjà tes armes qui sont mappées sur la croix. Et dans tous les Darksiders, c'est un peu bordélique comme ça, je trouve, le truc des armes et même pour appeler le bourrin, qui s'appelle je sais plus comment d'ailleurs.
Ça dépend le cavalier.
Ouais, je sais plus. Bah, je crois que le deuxième, il s'appelle Chiotte. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appelais. Il s'appelle Moisax, non?
Je sais plus. Attends, c'est Ruine pour guerre.
Ruine, c'est pas pourriture ou un truc comme ça? Pour mort, il a un nom à la con, je me rappelle. ou putréfaction, enfin, c'est un truc dégueulasse. Quoi. De toute façon, il y a moitié décharné le bourrin.
Ah, bref. J'ai vu. Ruine.
Ouais, c'est Ruine. Alors, ça, c'est Ruine, c'est pour Darkseid.
Attends, non, Ruine, c'est sûr. Oui, c'est War. Je sais plus.
Bon, bref, c'est pas très grave. Mais voilà, Je trouve que les contrôles un peu foutraques, c'est...
Despair.
Oui, c'est ça, désespoir.
Ouais.
En version... Ah non, il s'appelle Despair, même en version française, d'ailleurs, effectivement.
Du coup, oui, pour le 2.
Du coup, oui. C'est un peu le bordel, le 2. Voilà, bon, bref, donc c'est assez rigolo. Pour l'instant, je suis assez content du truc. Je sais pas si ça durera, je sais pas si sur la durée, ça va commencer à être chiant ou pas. Mais voilà, rien que le fait d'avoir du co-op, d'avoir encore un changement de style... avec apparemment plein de trucs à gagner parce que très rapidement tu débloques une espèce de roue des pouvoirs dans lequel tu te rends compte que il y a 7 ou 8 slots disponibles dedans et à chaque fois c'est des trucs différents, donc soit c'est des tirs différents pour Discord, soit c'est des charges ou en fait d'une arme secondaire un peu différente pour War, et je me dis juste ça, il y a peut-être moyen que ça apporte suffisamment de variété pour que tu te marres bien. Et autant le premier boss, je l'ai un peu torché en 2-2 en mode trop facile. Le deuxième, j'en ai un petit peu plus chié ma race déjà. Il a fallu que je sois vachement plus prudent, que je bouge vachement, que je regarde vachement comment fonctionnait le pattern pour éviter de me faire piétiner la gueule. Donc, je pense qu'il y a moyen d'avoir un bon petit jeu. Donc, toujours pareil, pas un truc de ouf, mais vachement sympa, avec un design sympa, une histoire sympa. Sachant que là, donc les cutscenes sont pas en 3D, c'est que des dessins en 2D. C'est espèce ouais, d'animation 2D.
Petit budget.
Bah écoute, pourquoi pas. Moi, à la limite, si ça leur permet de sortir des jeux sympas, ça me va très bien.
Oui, clairement.
Et bon, voilà. Je pense que ça va plutôt être une bonne pioche. Je pense que je rédigerai un petit truc dessus quand je l'aurai fini. Mais voilà. Et je t'attends pour qu'on fasse une petite partie en coop ce soir. Faut que tu me donnes un créneau. Moi, faut absolument qu'on essaye ça parce que ça a l'air d'être comme ça.
Nice.
Donc. 40€, voilà, si vous avez bien aimé Darksiders 1, Darksiders 2, si vous avez bien aimé le 3, a fortiori, pas de raison de pas y aller. Si vous aimez bien les jeux coop, le Diablo-like, pas trop prise de tête, dans lequel on peut faire un donjon complet en 1h, 1h30, tranquille, se taper un petit boss à la fin, transpirer un petit peu sur la fin, avoir une petite cutscene et une petite vanne à la con de Discord, nickel chrome. En tout cas, excellent. Moi, ça me va bien. Bref, et bien écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là.
Oui.
Parce qu'il me semble qu'on a déjà fait un bon tour là-dessus. Je suis content d'avoir parlé de Darksiders. Je sais pas de quoi on parlera dans 2 semaines. Il y a la sortie d'un jeu, il paraît, les 2 prochaines semaines. Ah, c'est peut-être fin mars en plus.
Ouais, c'est pas censé être la semaine dernière, le Dojobar.
J'ai eu un certain nombre de petits problèmes personnels qui ont fait que j'ai dû annuler.
Oui, il y a des trucs tout bêtes du style. Il y a eu 3 météorites sur Saint-Germain et il a fallu sauver tout le monde.
Des petits problèmes.
Voilà, des petits problèmes. Mmh. J'ai sauvé l'humanité.
Il y a un direct la semaine prochaine.
Alors peut-être qu'il y aura direct la semaine prochaine. Alors en termes, enfin sans vouloir, voilà, c'est pas pour dire qu'on est des feignants ni rien, mais le mois de février, c'est à peu près le seul jeu intéressant du mois de février, hein, Darksiders Genesis.
Je reviens sur Two Point Hospital. Stop. Qui est très bon, ne serait-ce que pour son intro où tu vois Seg à.
Stop. C'est pas possible. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas grand-chose. Il y a Animal Crossing qui sort ce mois-ci, me semble-t-il.
Fin mars, oui, le 20.
Fin mars. Du coup, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire un truc dessus, mais peut-être qu'on pourra faire une petite rétrospective dessus. Ça pourrait être intéressant. Même si, moi, je considère que c'est toujours le même jeu depuis le premier, mais voilà.
Bah, c'est un peu ça, ouais.
Mais bon, peut-être tenter quelque chose quand même.
Mais si, ils vont te mettre le Doomguy, tu vas voir.
Alors, ça me ferait triper. Mais en vrai, ça me ferait vraiment triper qu'ils sortent un costume Doomguy ou un truc comme ça.
Doomguy dans Smash.
Oh, putain, mec.
Doomguy Smash.
En plus, ça marcherait super bien, hein. Le fusil à pompe en B.
Le BFG en Final Smash.
Ouais, le phaser en. Enfin, le fusil à plasma pour le OB.
Le Glory Kill pour l'attaque Smash.
Ouais, voilà, y a moyen de faire quelque chose. Hein.
Vous l'avez entendu ici énorme, en premier.
Voilà, alors là, si franchement, s'ils le font, on pourrait nous remercier. Hein. Surtout que dans les personnages emblématiques du jeu vidéo, c'est peut-être le seul qui manque au final.
Ouais.
Bref, bon, ouais,
avec Master Chief, avec Crash Bandicoot,
avec le Tétronome de Tétromino.
Ouais, clairement, c'est celui qui manque le plus.
Le Tétromino, il manque. Eh, dans les personnages un peu délirants, il pourrait le faire.
Hein. Vrai, après, si on sait pas de quoi causer, on peut trouver des sujets bouche trou, hein.
Ah, mais vous inquiétez pas, des sujets, il y en a plein, surtout qu'on a plein de sujets qu'on a laissés dans les placards depuis quelques mois et qu'on pourrait faire, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve dans 2 semaines, sauf énorme impondérable. Et vous inquiétez pas, on trouvera toujours de quoi occuper. On trouvera toujours de quoi discuter. Et ce sera toujours intéressant. C'est la Dojo Seal of Quality. Je pose ça là. Bref, on dirait Bobby Kotick en fait quand je fais ça, c'est horrible.
Oh merde. Bon, on va couper. Hein.
Ouais, on va couper. Bref, on vous souhaite en tout cas une bonne soirée. On vous souhaite une bonne route si vous nous écoutez en podcast. Et on vous dit à dans 2 semaines. Bisous, ciao tout le monde.
Salut.
Salut.